11h, 12h30,
Anne Romanoff sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien d'être avec vous ce vendredi sur Europe 1. Pour fêter les 130 ans de la Tour Eiffel, il a décidé d'y aller ce week-end en empruntant uniquement les escaliers. Il faut profiter de lui aujourd'hui. On ne sait pas s'il sera encore parmi nous lundi.
C'est sûr.
Le sportif du dimanche, Jean-Philippe Vigini.
Je suis pas sûr d'y arriver. Bonjour l'équipe, bonjour tout le monde, bonjour les amis.
Dimanche sera la fin de la trêve hivernale. Il lui reste donc 2 jours pour payer 2 ans de loyer avant de devoir tester le camping hors saison. Ben H.
Je m'y prépare. Bonjour Anne Romanoff, bonjour tout le monde.
Demain, pour l'acte 20 des Gilets jaunes, il va se déguiser en policier grimé en gilet jaune qui s'habille en casseur. Si vous le cherchez dimanche, il sera en cellule 11 du commissariat du 7e arrondissement. Miguel, qui regarde ?
Oui, ou à la boutique Dior éventuellement.
Que ce soit à l'heure d'été ou l'heure d'hiver, il est la joie de vivre incarnée. C'est le sourire de cette émission, le printemps, le chaleureux, l'enthousiasme. Didier Porte est parmi nous.
Salut, salut.
Et celle qui, pour les 30 ans de Paris Match, aimerait bien se faire photographier chez elle, dans son intimité, en riant aux éclats en peignoir devant un verre de jus d'orange pressé et son nouvel amour. Elle a déjà le peignoir et le jus d'orange, il ne lui reste plus qu'à trouver l'amour. Anne Romanoff. Ouais.
Au sommaire de cette émission, Didier Porte nous parlera du droit de manifester en France. À 11h30, nous recevrons la youtubeuse et humoriste Lola Dubigny pour son spectacle « C'est pas que de la musique » chaque vendredi et samedi au Sentier des Halles à Paris. Jean-Philippe Vigini nous racontera en musique les coulisses de l'émission. Et à partir de 11h50, notre invité sera Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI et tête de liste UDI aux élections européennes. Ben H profitera de sa venue pour faire une annonce exclusive. Et Mickaël Quiroga nous aidera à en savoir un peu plus sur notre invité.
11h, 12h30, Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
Ce week-end, nous passons à l'heure d'été à 2h du matin dimanche. Ce sera en fait 3h. Est-ce que ça vous perturbe ce changement d'heure, Didier ?
Oui, alors ce qui me perturbe, ce n'est pas le changement d'heure en soi, mais le fait qu'à chaque changement d'heure dans cette émission, on me demande d'expliquer en long, en large et en travers que le changement d'heure me laisse totalement de marbre, qu'il s'agit pour moi d'un non-événement et qu'à ce titre, je n'ai aucune raison de le commenter, ce que je me vois pourtant dans l'obligation de faire 2 fois par an, et ce alors que j'ai jamais cessé de le répéter, je m'en tamponne le coquillard du changement d'heure. Ça y est, vous avez réussi à m'énerver. Je pense que pour le coup, j'en ai pour plus d'une heure.
Bravo. Et tout le monde sait que vous ne vous énervez pas facilement, Didier Porte. Ben H, le changement d'heure ?
Ouais, moi ça me perturbe. Enfin, ça me perturbe. Je trouve ça un peu frustrant en fait. L'année dernière, ça m'a fait le coup. J'ai commencé à faire l'amour à 2h30 du matin. J'ai fini à 2h du matin.
Vantard. Jean-Philippe ?
Ah ben moi, il m'est arrivé à peu près la même chose. Moi, j'ai commencé à faire l'amour à 2h15 et j'ai fini à 2h16.
Ah donc vous avez fait l'amour pendant une heure ?
Non, parce que ce jour-là, on changeait pas d'heure.
Voilà, oh, ça c'est quelqu'un de sincère au bon secours. Allez, petit retour sur l'actualité de ces derniers jours.
Aujourd'hui, on fête le 30e anniversaire de la pyramide du Louvre à Paris. Profitons-en pour rassurer les touristes. Si vous croisez une momie en train de déambuler sous la pyramide, n'ayez pas peur, c'est juste Jack Lang qui cherche le buffet.
Station spatiale internationale, la NASA a annulé la sortie dans l'espace de 2 femmes astronautes qui devaient avoir lieu aujourd'hui en raison d'un problème de taille des combinaisons spatiales. Combien au pari qu'elles ont commandé des combis taille 38 alors qu'elles font du 42 ?
D'après une étude épidémiologique de Santé publique France et du ministère de la Santé, 1 Français sur 4 boit trop, mais ne le sait pas.
Et les 3 autres ?
Ah ben les 3 autres aussi, ils boivent trop, mais ils le savent.
Ce week-end, on passe à l'heure d'été. À 2h, il sera 3h. Vous entendez, Anne ? Non, je précise parce que vous, à 3h, 5h ou 6h, c'est tout le temps le 4h.
Ce week-end, on passe à l'heure d'été. À 2h, il sera donc 3h. Sauf à la Sécu, qui reste à l'heure de la Sécu. Et à 14h, il sera 18h.
Des chercheurs américains ont découvert que le cerveau pouvait refabriquer toute sa vie des neurones. Un petit pas pour la science, mais un grand espoir pour Christophe Castaner.
Aux États-Unis, 9 infirmières d'un service de maternité sont tombées enceintes en même temps. Eh ben, je savais pas que DSK était hospitalisé en ce moment. J'espère que c'est pas trop grave, moi.
Europe.
On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Jean-Philippe Vigini, Ben H, Didier Porte, Mickaël Quiroga et 2 de nos auditeurs qui tenteront de gagner un séjour pour 4 personnes au Futuroscope en jouant notre jeu Devinez qui je suis.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Romanov sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi avec Mickaël Quiroga, Ben H, Jean-Philippe Zini, Didier Port. Mickaël Quiroga, vous avez quoi prévu ce week-end ?
Ce week-end, je peux pas vous le dire.
Pourquoi ?
Bah parce que j'ai pas envie.
Oh, on sent le mec en cavale.
C'est le moment de notre jeu. Comment s'intitule-t-il, Didier ?
Deux auditeurs compétition.
Non.
Alors Didier, comment s'appelle ce jeu ?
Devinez qui je suis.
Voilà.
Europe 1, Anne Romanov.
Le principe est simple, deux auditeurs en compétition, chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de personnalités. Aujourd'hui, c'est le 70e anniversaire de la création du magazine Paris Match par Jean Prouveau. Vous devez deviner des personnalités qui ont fait la une de Paris Match. Grâce à Europe 1, tentez de gagner un séjour au Futuroscope pour 4 personnes de 2 jours et 2 nuits en hôtel 4 étoiles. Découvrez Futuropolis, la ville des enfants, éclat de rire en famille garanti avec ses trampolines aquatiques, son manège nautique. Découvrez aussi en famille les 25 autres attractions du parc. Riche en sensations, l'extraordinaire voyage et le meilleur attraction européenne.
Oh là là, wow.
La machine à voyager dans le temps des lapins crétins. La machine à voyager.
Crétin, c'est moins sensuel, mais avec je vois ça passe quand même.
Si, la machine à voyager dans le temps des lapins crétins.
Oh. Si vous la refaites en vous arrêtant à lapin, c'est excitant.
La machine à voyager dans le temps des lapins.
Vous voyez, c'est mieux. C'est mieux.
Si tu t'excites là-dessus, faut consulter, hein, bonhomme.
Des lapins, crétins.
Ah oui.
Arthur, l'aventure 4D, danse avec les robots. Et à la nuit tombée, la coiffeurie vous transportera au pays des étoiles.
Vous êtes toujours là ?
Oui. Non mais là, c'est... le Futuroscope, ça la met dans un état.
C'est la fin de semaine.
Ah ouais. Et vous l'avez pas vu au parc Astérix, c'est pire.
Futuroscope, le bonheur est dans le parc.
Ah.
On joue d'abord avec Émilie. Bonjour Émilie.
Bonjour Anne, bonjour à toute l'équipe.
Bonjour Émilie.
Émilie, vous avez 37 ans, vous êtes diététicienne, vous habitez à Cruas dans le 07.
Cruas, oui.
Oui. Et vous adorez faire de la pâtisserie pour une diététicienne, c'est possible ?
Avec mon petit garçon.
Oui. Vous avez un petit garçon de 8 ans ?
Oui, voilà, qui adore pâtisser. Et puis, les diététiciennes, mes collègues me contrediront pas, on adore toutes cuisiner, je pense.
Et oui, mais comment on peut faire des gâteaux diététiques
alors ? Elle fait tout manger au petit.
On essaye de mettre un peu moins de sucre, un peu moins de matière grasse, et puis on peut aussi se faire plaisir de temps en temps, il n'y a pas de souci.
Vous jouez avec qui, Émilie ?
Moi, je suis sûr, sur les 14, je vais en faire trouver 12 faciles.
Ah, alors, avec Jean-Philippe, peut-être ?
Mickaël Quiroga s'est proposé, vous voulez pas jouer avec lui ?
Eh bien, avec Mickaël, qui me fait gagner, pas de souci.
Bon, ben...
Bah, merci pour moi. Pour une fois qu'on me choisit. Allez, jouer avec Mickaël.
Allez, on y va avec Mickaël.
Ouais, Mickaël, t'as la pression.
Par contre, tu dois faire 12 ans.
Ouais. Vous êtes prête, Émilie ?
Oui, allez.
Ah, donc, ce sont des personnalités qui ont fait la couverture de Paris Match. Attention, top chrono.
Alors, c'est l'ex-président américain noir.
Obama.
Voilà, le chanteur qui chantait ta-ta-tain. Mistral gagnant.
Renaud.
L'ex-femme du prince Charles, qui est morte en voiture.
Lady Diana.
L'homme qui chante femme, je vous aime.
Je sais pas.
Bon, tant pis. La chanteuse qui chantait l'école est finie. Mais oui, l'école est finie.
Hardy, non.
Non. Le chanteur qui faisait tourner les serviettes.
Sébastien.
L'ancien président qu'on appelait Tonton.
Oh, je sais pas.
D'accord. L'ex-femme de Gérard Depardieu, très belle.
Je n'ai pas marié avec lui.
Ah,
continue.
Oh là là,
on n'est pas loin des 12 là.
Ah bah oui. Oh, je lui aurais tout fait deviner moi. Là.
Quelle bonne réponse. Non mais n'importe quoi, Mickaël. Julien Clerc, il n'y avait pas que femme, je vous aime. Il y a Mélissa Métis d'Ibiza, il est juré à The Voice. 4 bonnes réponses, c'est pas si mal, Émilie. On va voir comment se débrouille Philippe. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour Anne, bonjour à tous.
Bonjour
Philippe. Vous avez 51 ans, vous êtes cartographe à Saint-Martin-de-Crau.
Oui, c'est ça.
Et vous êtes immobilisé depuis 4 semaines, vous êtes blessé, et du coup, vous avez découvert l'émission depuis.
Exactement.
Ah, oui, c'est une bonne nouvelle.
C'est grâce à ça que je joue avec vous aujourd'hui.
Ah, du coup, on a un auditeur en plus, c'est déjà ça.
Il faudrait que les gens se pètent les jambes tout le temps. Quoi.
Vous êtes fait mal comment ?
Bah, en fait, on était en voyage à Cracovie, en Pologne. Voilà, exactement. On me l'a fait déjà plusieurs fois. Et on est arrivé le lundi. Le mardi, on a commencé à visiter la ville. Et le soir, on a voulu aller boire un coup. Et j'ai voulu faire le malin, traverser les voies du tramway en courant. Et
chercher du boulot.
vous êtes fait renverser par un tramway ?
Non, quand même pas, heureusement. Mais enfin, j'étais pas loin. Non, il y avait une bordure entre les voies du tramway, c'est une spécialité polonaise.
Et vous l'avez pas vu, c'est ça ?
Et j'ai pas vu, et j'ai fait un vol plané, et j'ai atterri sur l'épaule. Donc, voilà. Le séjour, c'est
vous avez découvert
écourté.
Les hôpitaux de Cracovie, eh oui. Alors
on rappelle
ouais,
que
les urgences de Cracovie, je peux vous en parler. Ouais.
Alors, parlez-nous-en.
Eh ben, c'est un peu comme les urgences en France.
Donc, faut pas que ce soit urgent, quoi.
Voilà, c'est ça. C'est bon, j'ai passé 3 heures, quoi. Mais je pense qu'en France, c'est pas mieux. Hein.
Et là, vous êtes arrêté combien de temps?
Donc 6 semaines d'immobilisation, épaule plaquée contre le corps. Ça aurait pu être plus grave, mais voilà. Du coup, je suis chez moi, obligé de rester chez moi puisque obligé de vous écouter. Non, mais du coup, j'ai connu votre émission et voilà, ça m'a donné l'envie de.
J'espère que quand votre épaule sera réparée, Philippe, vous continuerez à nous écouter.
Voilà.
Mais évidemment, mais tout à fait.
Donc on encourage tout le monde à se casser la figure dans la rue, non, pour avoir plus d'auditeurs.
Mais ça doit foutre la rage à quelques-uns qui écoutent depuis des années et qui n'ont jamais joué encore. Hein.
Philippe, vous allez jouer avec qui?
Je vais jouer avec Jean-Philippe.
Ouais, personne veut prendre ma place là.
Ce sont des personnalités qui ont fait la couverture de Paris Match. Attention, il faut faire, pour gagner ce séjour au Futuroscope, il faut fassiez plus de 4 bonnes réponses. Attention, top chrono.
C'est une actrice qui jouait dans la Boom.
Sophie Marceau.
Ok, un ancien Premier ministre, il est catalan, il vient de Barcelone. Ouais, elle chantait Babacar, la femme de Michel Berger.
Frank
Gall. Ok. Il présentait Ushuaïa. Ushuaïa, c'est présenté par
Nicolas Hulot.
Ok. C'est une nageuse. Elle vient de Marseille. Son frère aussi fait de la natation. Elle s'appelle
Laure Manaudou.
C'est la femme de Serge Gainsbourg. Elle est anglaise.
Jane Birkin.
Ok. C'est le mec qui fait la pub pour Nespresso. Un acteur américain. Waddles. Ouais, c'est pas grave, c'est l'ancienne femme de François Hollande. Ils sont plus ensemble, c'est de l'ancienne femme.
Ségolène Royal.
Ouais, entre les. Ouais, un peu. Ouais, c'est pas grave.
Il y a du choix.
Bravo, Philippe, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 bonnes réponses.
Là, et encore, j'étais
super.
Pas chaud.
Et vous n'avez pas trouvé Georges Clooney et Valérie Trier-Véleur, mais vous avez.
Voilà,
mais vous avez gagné un séjour au Futuroscope pour 4 personnes de 2 jours de nuit en hôtel 4 étoiles. Découvrez Futuropolis ainsi que les 25 autres attractions du parc. L'extraordinaire voyage est la meilleure attraction européenne, la machine à voyager dans le temps des lapins crétins, l'Arthur, l'aventure 4D, danse avec les robots et la nuit tombée, l'aquaférie vous transportera au pays des étoiles, Futuroscope, le bonheur est dans le parc. Est-ce qu'on peut avoir un cri de joie, s'il vous plaît, Philippe?
Waouh! Testostérone!
Ça, c'est du cri de joie.
On dirait qu'il a martyrisé un cheval.
Vous allez partir avec qui, Philippe?
Je vais partir, je pense, avec mon épouse et mon fils quand il aura fini ses.
Et un copain de votre fils, parce qu'il y a 4 personnes.
Un copain de mon fils, voilà. Ou une copine.
Émilie, vous continuez à nous écouter?
Bien sûr.
Je suis désolée, Émilie.
Hein. Oui, et vous rejouez avec nous d'ici un mois, Émilie.
À bientôt, alors.
Voilà. On vous embrasse tous les deux.
Gros bisous.
Oh là là, on sent qu'Émilie est au fond de sa vie.
Émilie,
on va pas vous laisser comme ça, Émilie.
En plus, elle avait fait le bon choix au début. Hein.
Vous êtes déprimée d'avoir perdu, là, je vous sens
pas. Non, pas du tout.
Vous allez vous consoler avec un bon repas de l'hôpital. Ça fait plaisir.
C'est génial.
Une purée d'on sait pas quoi, ça c'est pas mal.
Allez, on vous embrasse tous les deux.
Gros bisous.
Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission 3921, 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site www.europe1.fr.
Europe 1.
On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Mickaël Quiroga, Benna, Jean-Philippe Vizigny et Didier Porte qui nous parlera du droit de manifester en France.
Anne Roumanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi avec Mickaël Quiroga, Ben H, Jean-Philippe Vizigny, Didier Porte. Et ben voilà, c'est tout.
C'est déjà pas mal. C'est déjà une belle équipe.
Alors, vous savez qu'un tableau de Pablo Picasso estimé à 25 millions d'euros et volé il y a 20 ans sur un yacht dans le sud de la France a été retrouvé aux Pays-Bas grâce aux recherches d'un expert d'art néerlandais. Qu'est-ce que vous avez perdu il y a longtemps et que vous aimeriez retrouver aujourd'hui, Didier?
Ce que j'ai perdu il y a longtemps et que j'aimerais retrouver aujourd'hui, c'est bien sûr ma virginité. Je parle évidemment de ma virginité en tant que spectateur des 2 premiers épisodes du Parrain de Coppola, que j'ai dû voir une 20aine de fois. J'attends avec impatience Alzheimer pour le revoir comme si c'était la première.
Ben H?
Moi, je crois que sincèrement, ce que j'aimerais retrouver, c'est mon premier amour.
Vous savez ce qu'elle est devenue?
Non, je sais juste qu'elle me doit toujours de l'argent.
Oh,
ça.
Alors, Mickaël?
Moi, c'est un peu pareil que Ben H. Je voudrais bien retrouver mon premier amour et cette fois-ci, je voudrais rester toute la nuit avec elle. Quoi.
Pourquoi vous n'étiez pas resté toute la nuit la première fois?
Non, parce que j'avais pas assez de sous.
Oh. Ça manque tellement de romantisme, Jean-Philippe.
Oui. Ben moi, quand j'étais petit, je m'étais lié d'amitié avec une chèvre du jardin d'acclimatation.
Voilà le romantisme.
Et un jour, je l'ai revue.
Ah bon ? Qu'est-ce que vous lui avez dit ?
Ben, je lui ai dit qu'apparemment, elle devait de l'argent à Ben H.
Allez. On sent que c'est vendredi, hein.
Ah ouais.
À la veille de l'acte 20 des Gilets jaunes, mon cher Didier Porte, vous avez des informations exclusives à nous livrer concernant le droit de manifester en France.
Absolument. On a encore critiqué le président de la République pour avoir gentiment admonesté cette manifestante de 73 ans qui a trébuché samedi dernier à Nice et s'est cognée la tête sur le bitume. Le chef de l'État a eu le malheur de lui recommander un peu plus de sagesse, notamment celle d'éviter désormais de participer à des manifs interdites. Et cela a suffi à déclencher le cœur habituel des pleureux, brandissant le sempiternel épouvantail de la remise en cause du droit de manifester. Il n'en est pas question, évidemment. Ce qui est vrai, c'est que le gouvernement a pour projet de subordonner l'exercice de ce droit imprescriptible à quelques conditions qui relèvent du plus élémentaire des conforts et du plus simple des bons sens. Grâce à une relation que j'ai à l'Élysée, mon ami Alexandre,
dont il est inutile,
je vous donne le nom de famille, ne vous direz rien, je suis en mesure de vous livrer les grandes lignes du dit projet. Voici donc la liste des quelques aménagements auxquels il va être procédé. Vous allez constater qu'il n'y a pas de quoi fustiger un félidé, ce qui est la version élégante de fouetter un chat, je le précise à l'intention de nos jeunes chroniqueurs ici présents et qui ne connaissent que deux expressions, lol et trop pas cool. Bien sûr que nous aurons le droit de participer à toutes les manifestations de notre choix, à condition qu'elles soient autorisées. Pour ce faire, il faudra juste remplir un dossier de candidature 3 mois à l'avance et comprenant les éléments suivants, le traditionnel CV et sa lettre de motivation, une fiche d'état civil, une photocopie certifiée conforme de la carte d'identité, une facture de gaz ou de téléphone, un extrait de casier judiciaire, le carnet de vaccination à jour, pas oublier la rougeole qui sévit en ce moment, ainsi que la fièvre jaune qui fait carrément des ravages, un certif médical d'aptitude à la marche rapide et au demi-tour instantané de moins de 3 mois, un RIB et enfin une caution de 1 500 € par personne, récupérable exclusivement au cas où la manifestation se traduirait par l'adoption d'une loi en moins de 3 semaines. Ça, c'est pour la partie administrative. Sur le terrain, les candidats à une manifestation de plus de 60 ans devront fournir une décharge signée de leurs enfants et petits-enfants avant d'effectuer sur place un test d'effort comprenant 50 pompes claquées plus autant de traction sur un seul bras. Et après avoir franchi les portiques de sécurité détecteurs de métaux, ils devront se soumettre à une fouille intégrale au terme de laquelle il leur sera demandé de se pencher en avant et de tousser très fort. Une fois le cortège intégré, pas de changement majeur pour les manifestants qui devront juste avancer à un pas cadencé en scandant avec force 1, 2, 1, 2, 1, 2, ce qui, soit dit en passant, leur évitera de chanter ces choses vulgaires ou de brailler ces slogans grossiers dont la populace se repaît trop volontiers. D'ailleurs, le bureau de création de la préfecture de police sera chargé de les réécrire. Ainsi, le très contestable « Au cul, au cul, aucune hésitation, Macron, Macron, tu vas l'avoir dans le feu !»
Pardon ?
Deviendra « Monsieur, monsieur le président, vous êtes vraiment un chenapan !» Oui, c'est quand même plus correct. Par ailleurs, les défilés de protestation seront cantonnés dans les couloirs de bus, avec arrêt toutes les 5 minutes pour permettre aux protestataires d'entrer ou sortir du cortège. S'ils croisent une colonne de CRS, les manifestants seront tenus de baisser le regard. Mais ceux qui le souhaitent pourront demander l'autorisation de sortir de la manif pour aller féliciter un des membres des forces de l'ordre en lui faisant un bisou ou bien en lui serrant la main. Attention toutefois de ne pas la lui serrer trop fort si vous voulez éviter un placement en garde à vue pour violence à agent. Vous voyez les amis, nous n'avons aucun souci à nous faire pour notre droit de manifester. Post-scriptum, pour l'instant, le gouvernement a prévu de ne laisser autoriser qu'une seule manifestation, celle du 14 juillet aux Champs-Élysées. C'est déjà pas mal, non ?
Dimanche, on change d'heure, je n'y comprends décidément rien. J'ai donc passé un coup de fil pour y voir plus clair.
Bonjour.
Je suis à la mairie ?
Oui.
Oui, bonjour madame. Peut-être pouvez-vous me renseigner ?
Bon, on va essayer.
Je voulais savoir quelle heure il est.
Quelle heure il est ?
Oui.
Il est 14h36.
Oui, mais on m'a dit qu'on allait changer d'heure.
Ah, mais à partir de dimanche, madame.
Puis quelle heure il sera ?
Je sais pas, attendez, je me renseigne. On avance d'une heure, madame.
Puis quelle heure il est, alors ?
Alors, il sera lundi, à la même heure, il sera 3h30.
On a une heure en plus ou on recule d'une heure en moins ?
Vous avez perdu une heure, quoi, en fin de compte.
Je comprends pas. On avance, on recule.
C'est-à-dire qu'à minuit, samedi oui. soir, vous avancez vos pendules d'une heure.
Faut que je reste debout jusqu'à minuit ?
Mais non, vous n'êtes pas obligé d'attendre jusqu'à minuit si vous dormez, peu importe si vous avez avancé d'heure ou pas.
Il a l'air de mieux être au courant, votre collègue, madame.
Ben, je vous le passe, alors.
Oui, allô ?
Je comprends rien, qu'est-ce qu'elle me dit, la dame ?
Quand il sera 2h du matin, dans la nuit, de samedi à dimanche, il faudra avancer votre pendule pour la mettre à 3h du matin.
J'avance d'une heure et je recule.
Non.
Et les mettons 22h30. Qu'est-ce que je fais ?
Vous mettez à 23h30 et c'est tout.
Puis je mets mon réveil à 2h.
Non, c'est pas la peine, parce que vous l'aurez fait. C'est pas la peine de mettre 36
heures. Vous m'avez dit que ça changeait à 2h.
C'est officiellement au niveau du
Oui, mais
temps.
Moi je vais être en règle avec la loi.
Bah, en règle avec la loi, vous le faites la veille au soir et c'est tout. Voilà. Je vous remercie, bonsoir madame.
Attendez monsieur !
Mérite, bonjour.
Oui madame, votre collègue m'a raccroché au nez.
Qu'est-ce que vous voulez exactement ?
Parce qu'il m'explique, je comprends rien. Parce que vous m'avez dit qu'on change à minuit, puis lui il me dit que c'est à 2h.
Non mais vous faites ce que vous voulez. Vous avez juste à avancer votre pendule d'une heure et c'est parfait.
Donc je me réveille à minuit.
Voilà.
Et je recule.
Et vous avancez.
Et j'avance.
Voilà.
Donc je peux le faire aujourd'hui ?
Vous faites ce que vous voulez.
Comme ça je m'avance et je suis pas en retard.
Ah oui, c'est vrai que vu comme ça, oui.
Et vous feriez quoi à ma place ?
Moi, j'attendrai dimanche matin.
Mais si j'oublie, après, je vais être en retard au marché.
Et puis en plus, on en perd une année, une journée, une heure, alors ce sera encore pire. Vous m'excuserez, mais là, j'ai autre chose à faire.
Je vous ai pas dit mon nom.
Mais c'est pas grave.
C'est Anne Roumanoff.
Si vous le dites.
Mais moi, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre comment ça marche.
Toujours compliqué.
Donc là, à 2h.
Il sera 3h.
D'accord.
Mais ils vont le supprimer de façon, ça.
Et chaque année, vous y arrivez.
Bah oui, parce que...
Ah bah, on continue comme ça, voilà.
Europe 1. On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Ben H, Jean-Philippe Vizini, Mickaël Quiroga et notre invitée, la youtubeuse et humoriste Lola Dubini pour son spectacle C'est pas que de la musique, actuellement au Centre Idéal à Paris.
Sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous ce lundi sur Europe 1 avec Mickaël Quiroga, Ben H, Jean-Philippe Vizini et notre invitée, ma première invitée, c'est une toute jeune chanteuse de 25 ans, elle est youtubeuse humoriste. Elle cumule déjà plus de 25 millions de vues sur sa chaîne YouTube, 2 millions d'abonnés. Elle raconte la vraie vie, notamment la sienne, avec des compositions pleines d'autodérision. Dans son premier spectacle, Lola Dubini, ce n'est pas que de la musique, actuellement au Centre Idéal à Paris. Applaudissements pour Lola Dubini. Ouais. Merci. Alors Lola Dubini, vous avez beaucoup souffert.
Ouais, ici on commence.
Quel bon début d'émission. Oui, j'ai beaucoup souffert.
Je peux vous dire que là vous êtes tombé sur une copine. Hein.
Waouh. Non mais vous avez beaucoup souffert étant petite, sérieusement, vous avez été harcelée quand
ouais,
vous étiez petite.
Ouais, c'est ça. J'ai pas mal subi le harcèlement scolaire et je pense que la musique a trouvé très facilement sa place dans ma vie pour essayer d'exorciser un peu tout ça. Et je le fais depuis que bah en fait j'ai commencé à peu près la musique quand le harcèlement scolaire a commencé. Donc oui, j'ai beaucoup souffert.
Moi, j'ai été harcelé à l'école aussi.
Ah bon ?
Ouais, c'est les profs, arrêtez pas de dire travail, c'est chiant.
Non mais vous, Lola, vous avez été harcelé entre quel âge et quel âge ? Ça a été très long.
En fait, j'ai pas mal été attaquée sur mon physique. Donc ça a commencé à mon premier déménagement. J'étais à peu près en quatrième, cinquième, quoi. Mais j'ai toujours été un peu différente des autres par ma corpulence. Donc les enfants... se font un plaisir de pointer du doigt les gens différents, quoi. Donc ouais, ça a commencé.
Mais ça vous a donné une force aussi, j'imagine, non ?
Bah en fait, c'est là où j'ai commencé à développer le second degré, je pense. En tout cas, sur moi. Et c'est pour ça que dans le spectacle, j'essaie de rire de moi, mais pas que. Aussi de montrer que les complexes, faut essayer d'en faire une force. Ou en tout cas, de les accepter ou d'être conscient qu'ils existent pour mieux vivre. Parce que je vois au quotidien plein de mes abonnés, justement, qui sont pas encore conscients de leurs complexes et qui le vivent du coup hyper mal, qui vivent leur vie cachée en fait, tout simplement. Et je trouve ça dommage à nos âges.
Vous avez été aidé par un directeur d'école qui a assisté à un moment où vous étiez maltraité. Il est sorti de sa voiture, il est intervenu. Enfin,
alors l'histoire, c'est plutôt que c'est mon père. C'est mon père qui est sorti de la voiture et qui m'a traîné chez le directeur pour dire attends, en fait, c'est pas normal ce qui se passe là et ça fait depuis combien de temps ? Et du coup, le directeur
parce
a de suite
réagi. Vous l'aviez jamais dit à vos parents ?
Non, parce que pour moi, ça paraissait logique. et normal qu'on me traite comme ça. Et
donc
en fait,
c'est votre père qui tout d'un coup a assisté à ça.
Ouais, en fait, j'en ai un peu parlé à mes sœurs et mes sœurs ont, je pense, un peu mis la puce à l'oreille à mes parents. Et un jour, mon père a vu que des gars m'attendaient en haut en BTS, quoi. Ils m'attendaient en haut de la tour et pour m'insulter tous les matins quand j'allais au lycée, quoi. Et c'est mon père qui a dit, mais ça se passe depuis combien de temps? Et j'ai dit, bah, ça se passe depuis des mois, quoi. En plus, je venais de faire de la télé, donc ça avait encore.
Vous venez de faire la télé dans.
J'avais fait Incroyable Talent
déjà
à l'époque, ouais. Et c'est ça, en fait, je pense aussi qu'il y a encore plus amplifié l'effet.
Ça les a énervés.
Bah grave, ouais, parce que j'avais fait des trucs. Alors quand on fait des trucs, qu'est-ce que c'est horrible.
Attends, déjà t'es pas parfaite. En plus tu fais des trucs.
Ouais, et
tu pousses un peu. Hein.
Franchement, c'est horrible.
Tu pousses
et
un peu.
Et du coup, le directeur est intervenu, ça s'est arrêté.
Et ça s'est arrêté assez immédiatement. Et du coup, enfin, j'avais plus du tout peur. Au début, j'avais peur de paraître pour la nulle qui demandait de l'aide. Et en fait, des fois, il faut savoir demander de l'aide parce que c'est comme ça qu'on s'en sort. Et c'est grâce à ça que personnellement que j'ai réussi à me dire en fait c'est pas une situation normale et à me sortir de ce truc parce que sinon on se laisse constamment avoir, quoi.
Ouais.
Lola Dubini, le mieux c'est de vous écouter.
Avec plaisir.
Comment s'appelle la chanson?
La chanson s'appelle Il n'y a jamais de princesse dans les contes.
Je te demande pas d'être honnête, je préfère passer pour une cruche, pour oser dire que je suis belle. Il te faudrait un cœur robuste, tu pourras me lire du Baudelaire. Tu sais que la poésie j'aime ça, et tu liras bien en cachette du Musso, du Anna Gavalda. C'est bon, ça y est, je nous vois bien écrire des chapitres indins. Il n'y a jamais de princesse dans les contes que l'on cache et dont on a honte. C'est bon, ça y est, je nous vois bien écrire des chapitres indins. Il n'y a jamais de princesse dans les contes que l'on cache et dont on a honte.
Europe. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec Lola Dubini, venue nous parler de son spectacle. Lola Dubini, c'est pas que de la musique, actuellement au Sentier des Halles à Paris. Ne bougez pas.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Sur Europe 1 ce lundi avec Mickaël Quiroga, Benal, Jean-Philippe Vizini et notre invité Lola Dubini. Vous nous parlez de son spectacle. Lola Dubini, c'est pas que de la musique, actuellement au Sentier d'Halles à Paris. Lola Dubini, qu'est-ce que vous aimeriez faire dans l'avenir de la chanson, du cinéma, du théâtre, tout?
J'estime que la scène, c'est ce que je rêvais et je rêve encore de faire pendant des années et des années. Et après, je suis pas contre plein de projets artistiques parce que je trouve que c'est ce qui nous fait vivre. Le plus, en tout cas, c'est ce qui m'enrichit, moi, et je le découvre au fur et à mesure. J'ai testé le théâtre avec des coéquipiers, j'ai testé la scène seule, je vais jouer dans une série, enfin, je fais plein de choses différentes.
Quelle série vous allez jouer ?
Une série pour TF1 qui s'appelle Olivia, avec Laetitia Milo.
Et vous jouez quoi ?
Je peux pas encore tout à fait le dire.
Ça veut dire que c'est elle le tueur.
J'ai dévoilé l'intrigue. Mince.
Zut alors.
Non, mais en tout cas, j'ai un rôle vraiment très chouette et je suis très contente d'être avec Laetitia sur cette série. Et je joue aussi avec Philippe Duquesne. Donc j'adore aussi depuis des années et des années. Donc franchement, c'est assez incroyable ce qui se passe en tout cas en ce moment. C'est trop cool.
Vous sentez que votre carrière décolle?
J'en ai aucune idée. En tout cas, je fais ce que j'aime et je crois que c'est trop cool. Franchement, si et même êtes... d'être là avec vous, voilà. Je suis trop contente.
Vous êtes Yann Romanoff quand même. Donc ça décolle. Hein.
Ça décolle, excusez-moi. Je sais que ça.
C'est l'apothéose.
Ah ouais.
Jean-Philippe Vizini a des choses à vous dire,
bien
Lola
sûr,
Dubini.
Bien oui, Lola...
Vous avez déjà des noms qui riment, Dubini, Vizini.
Bien voilà, quoi, qu'est-ce qui nous arrive?
Marion-nous.
Lola Dubini, ben oui, vous, votre spectacle est rythmé par la musique, hein, en quelque
exactement.
Sorte. Et ben nous aussi, dans l'équipe, tout ce qui nous arrive pourrait être un peu rythmé par la musique. Le matin, on se lève, on est prêt à aller travailler, motivé comme jamais pour aller bosser. Ouais, on arrive à la radio et là, tous les matins, Anne Romanoff, qui a toujours une pêche d'enfer le matin, nous transmet sa joie de vivre communicative. Ouais, alors, avant de commencer l'émission, évidemment, bah, on discute entre nous. Hein. Ben H nous raconte fièrement son début de soirée.
Putain, ouais.
Bah ouais. T'as tellement une vraie réputation.
Et ensuite, il nous raconte sa fin de soirée.
C'est vrai aussi.
C'est pas pareil, hein. Mickaël qui regarde, bah lui tout le temps, il essaie de nous impressionner avec ses histoires du 9-3. Il est là, Mickaël. Grosse Kaira, alors qu'en fait, depuis qu'il a un peu de succès, il habite dans le 16e, Mickaël. Eh ouais, Mickaël, ouais, faut le dire aux gens maintenant, hein.
T'es malade.
Ici en bourgeoisie, ensuite évidemment, ben, l'émission commence et là c'est le drame. Un des chroniqueurs fait une vanne complètement pourrie. Anne Roumanoff le regarde droit dans les yeux avec un air de dire. Dans la tête du chroniqueur, c'est la panique. Il pense à son avenir. Il se dit que qu'est-ce que va devenir mon pouvoir d'achat. T'es où ? Alors après l'émission, on va tous à la cantine. Oh, et là, Anne Roumanoff prend une mousse au chocolat.
Il en faut peu pour être.
Il y a une répute aussi.
Et voilà, on finit de manger entre nous. On est vendredi, c'est l'heure de se quitter. On se reverra lundi parce que maintenant, c'est l'heure du week-end.
Lola Dubini, on rappelle que vous êtes actuellement au Sentier des Halles le vendredi et le samedi à 20h. Et puis il y a votre chaîne internet. Quel est le nom de... Je sais que vous avez déjà.
Votre
500...
chaîne internet.
La chaîne YouTube.
Oh, ça va.
Non, franchement, elle est mignonne, mamie, non.
Vous avez déjà.
Alors, pour
500...
s'abonner, 3615, code Lubini.
Vous avez 534 693 abonnés. Vous n'avez pas besoin qu'on. Mais ça s'appelle Lola Dubini, votre chaîne.
Exactement, Lola Dubini, c'est très simple.
Et puis Instagram, 629 000 abonnés. Vous m'en envoyez.
Avec grand plaisir, Anne.
Avant de se séparer, Lola Dubini, on va vous écouter chanter encore un extrait du spectacle.
Bah ouais, si vous voulez, on pourrait parler de Karl Lagerfeld.
Vous lui avez dédié une petite chanson.
Exactement.
On écoute.
Je suis pas bobo, je suis pas hipster. Je vagabonde dans tous les styles. La queue hobo croisée, bonne sœur. J'ai la joute du swag malhabile. J'ai plus rien, la mode me fait peur. Je traîne le dimanche en jogging. T-shirt troué moitié sans manches. Mon fashion week-end cocooning. De temps en temps, en aparté, je fais ma parenthèse à moi. De temps en temps, en aparté, je m'entends me chanter tout bas. On en aurait des choses à se dire, Karl. On pourrait sans cesse discuter de mon sens aiguisé du style, Karl. De ma façon me comporter. On en aurait des choses à se dire, Karl. On pourrait sans cesse discuter de mon sens aiguisé du style, Karl. De ma façon me comporter.
Europe. Merci Lola Dubini d'être passée nous voir. On rappelle votre spectacle Lola Dubini, c'est pas que de la musique, actuellement au Sentier des Halles à Paris. Puis votre chaîne YouTube, je peux le dire, hein. Lola Dubini.
Exact.
Avec plus de 534 693 abonnés. Merci Lola Dubini.
Merci à vous de m'avoir
reçu. Dans quelques
reçu.
Instants, c'est Jean-Christophe Lagarde qui sera notre invité.
Midi 30. Anne Roumanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous ce vendredi sur Europe 1 avec Mickaël qui regarde, oui. Benna, Jean-Philippe Vizini,
ouais,
et notre ouais, invité. On a un invité politique souvent, ouais. Le vendredi, il a été maire de Drancy pendant 16 ans, député UDI depuis 2001. Il a été porte-parole de François Bayrou pendant la campagne de 2007. Il se présente aux européennes sous l'étiquette Les Européens et va ce matin nous donner sa définition de l'Europe. Jean-Christophe Lagarde est avec nous aujourd'hui sur Europe 1.
C'est ici qu'on pourrait organiser des meetings. Parce
ah,
que
bah là, c'est là. Là, il y a une ferveur, on sent qu'ils ont tous les albums. Hein. Pas de problème.
Bonjour Jean-Christophe Lagarde, bienvenue sur Europe 1.
Bonjour madame Roumanoff.
On va crever l'abcès tout de suite. Ça veut dire quoi exactement centre droit? Vous êtes au centre, mais si vraiment on vous demande à choisir, vous êtes à droite, mais quand même plus à gauche que les gens de droite. Mais alors qui est au centre gauche? Et plus à droite que la gauche, plus à gauche que la droite? Est-ce que c'est pas un coup à perdre le Nord?
En tout cas, moi, vous m'avez perdu depuis un moment, là, dans la description. Non, je pense que c'est assez simple, finalement. C'est essayer de conjuguer à la fois la nécessité de laisser, de libérer les initiatives d'une société et que les gens puissent en tirer leur récompense quand ils ont un investissement ou un talent. Et en même temps, de ne pas oublier de perdre, de perdre en route un certain nombre de gens qui n'ont pas les mêmes talents ou qui ont du mal à s'adapter à des mutations sociales. Voilà. Essayer de trouver un équilibre, en réalité.
Vous êtes macroniste ?
Non, c'est pas parce que j'ai dit en même temps qu'on est macroniste, vous savez. D'abord, on disait en même temps, longtemps avant qu'il existe, peut-être même avant qu'il soit né.
Vous avez déclaré en 2014, je ne suis pas le centrisme couille molle. Dans leur idée, être centriste, c'est hériter. Pour moi, c'est convaincre et conquérir. Les gens adhèrent parce que je suis un bon maire. Alors dites-nous, c'est qui les centristes couille molle ?
Oh, je vais pas dénoncer les noms ici.
Les classe par molitude. Alors, qui est le plus mou.
Molitude mollesse.
Ah, bah, c'est, bah, moi, j'ai oui, pas fait autant d'études que vous.
C'est mieux, mais c'est peut-être une perversion de Ségolène Royal.
C'est ça, ça voilà.
Vous définissez comme un centriste couille dur ou
Non, je.
En fait, vous êtes un maire avec une sacrée paire.
Voilà, je vous en prie. Je vais recommander à mon épouse de pas écouter l'émission. Non, pour être plus sérieux, je suis un centriste de combat, c'est-à-dire que je pense qu'on s'engage dans une élection, on n'est jamais sûr de gagner, mais au moins on défend ses idées. Et que d'autres ont plutôt pris l'habitude, la mauvaise habitude, mais justement, au moins ma formation politique est en train de se transformer là-dessus, d'essayer de trouver comment être élu dans une élection. Évidemment qu'on préfère être élu, mais ça sert à quoi d'être élu si ce n'est pas pour avoir porté son combat ?
Oh là, ça, on dirait un lancement de film.
Punchline.
Hey, Netflix, la nouvelle saison.
C'est ouais, mais vous venez de flinguer la bande-annonce là.
Ah, mais ça peut faire que ça sert à quoi d'être élu si ce n'est pour mener son combat.
Là, ça vient du Stallone.
Jean-Christophe Lagarde, vous vous présentez aux Européennes sur la liste Les Européens. Vous n'êtes pas super foulé pour le nom de liste, parce que si pour les présidentielles, vous créerez un parti qui s'appellera La France présidée, pour les municipales, votre liste s'appellera La municipale, Les municipaux, suspense.
Non, là, c'est simplement parce qu'il y a tellement de gens qui sont anti-européens, parfois d'ailleurs sans bien savoir pourquoi. Je vous prenais l'exemple de Boulogne-sur-Mer et des pêcheurs. On leur raconte qu'il y a des réglementations européennes qui leur pourrissent la vie. Et c'est vrai que certaines sont inutiles, j'en ai dénoncé. Mais la plupart du temps, et les gens ne le savent pas, dans l'agriculture, dans la pêche, dans l'industrie, les réglementations qui rendent la compétition déloyale, inéquitable entre nous et les autres, ce sont des réglementations françaises qu'on a rajoutées aux règles européennes. Je disais à un pêcheur ce matin, on est dans la situation absurde où sur un terrain de foot, vous avez deux équipes. Bravo à l'équipe de France d'ailleurs pour son match récent. Vous avez deux équipes, elles jouent en fonction des règles de la FIFA. Ce sont les mêmes règles. Ben non, nous on fait comme si on demandait à l'équipe de France de jouer avec des chaussures en plomb et qu'on leur interdisait de se servir, que le goal se serve des mains. Pour gagner un match, c'est plus difficile. La plupart du temps, c'est pas l'Europe qui est à côté de ses pompes, c'est la France.
Quel est l'objectif que vous fixez pour les Européennes ? À partir de quel pourcentage vous serez heureux ?
D'abord, moi je connais pas de petite liste, il y a 79 candidats sur une liste et ensuite c'est les Français qui décident qui a raison et qui a tort. Je ne fais pas des pronostics, je mène un combat politique. Nous sommes la famille politique de Giscard d'Estaing, de Simone Veil, de Jean-Louis Borloo. On a toujours été aux avant-postes de l'Europe. On ne va pas aujourd'hui se planquer alors qu'elle risque de disparaître. Et que si elle disparaît, pourquoi je dis que les autres, je pense à Trump, je pense au président chinois, je pense à l'Inde, à M. Poutine qui se fait de plus en plus pressant. Pourquoi ils ont envie que l'Europe disparaisse ? Parce que c'est dans leur intérêt à eux.
D'avoir une Europe faible.
Mais plus les pays sont divisés, plus ils nous imposeront un par un leur volonté. La réalité, c'est que si c'est leur intérêt, c'est pas le nôtre. Si c'est pas le nôtre et que l'Europe aujourd'hui ne fonctionne pas correctement, il faut la changer pour que ça devienne l'instrument de notre intérêt. C'est ça ce que j'essaye de faire passer comme message.
Vous voulez faire combien de pourcentage, Jean-Christophe Lagarde ?
100%.
Non.
Non, mais
c'est jouable.
Alors, on se retrouve
merci,
dans un instant.
Merci pour les applaudissements, mais je suis pas sûr que ça réussisse quand même. Mais j'essaie.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Jean-Christophe Lagarde. Ne bougez pas.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi avec Mickaël Quiroga, Benna, Jean-Philippe Vizini et notre invité Jean-Christophe Lagarde. Alors, avant la pub, vous disiez comme une boutade que vous vouliez faire 100% aux Européennes avec votre liste Les Européens. Sérieusement.
90, déjà, ce serait pas mal. Hein.
Honnêtement, le score, si on parvenait à faire 10-12% de députés, ça veut dire 12-13 députés qui vont défendre la France au Parlement européen avec une perspective, c'est que ce Parlement écarte tout ce qui est inutile aujourd'hui comme réglementation tatillonne et se concentre et recentre l'Europe sur le rapport de force qu'on a besoin d'avoir avec le reste.
Et les sondages vous donnent combien, Jean-Christophe Lagarde ?
100%. Il y a une semaine, c'était 1,5 et maintenant, c'est 3,5. Donc, ouais, ça progresse.
Et après cette émission, pouf.
J'imagine.
Mais les problèmes de l'Europe, ce n'est pas que les petites règles de pacotille, comme vous dites. Il y a aussi, par exemple, là, le problème des impôts d'Amazon, Apple, etc. C'est l'Europe qui bloque. Alors que là, pour le coup, la France est moteur.
Mais c'est un rapport. Alors, il y a deux choses là-dessus. D'abord, c'est un rapport de force qui est nécessaire avec les États et aussi avec ces multinationales. Ce rapport de force, vous ne le ferez pas la France seule. Regardez d'ailleurs, la France, elle décide là de faire un impôt, une taxe sur les GAFA. Cette taxe, pardon de le dire, c'est une profonde erreur. Pas parce que les GAFA auraient peur. Google, aujourd'hui, est en situation de monopole. 93% de nos recherches sur Internet passent par Google. Qu'est-ce que fait une entreprise en situation de monopole quand on lui met une taxe? Elle la répercute sur son client. Qui sont les clients? Les artisans, les commerçants, les petites entreprises qui passent des annonces chez Google. Donc, ils vont payer plus cher. Et s'ils payent plus cher à la sortie, cette taxe de 500 millions, qui va la payer? Vous et moi. Parce que quand vous allez acheter chez ces commerçants, ils vont la répercuter. Taxer une situation de monopole est absurde. Moi, je fais une autre proposition. Et je pense que là, tous les Européens pourraient être d'accord. Tous les pays européens, parce que c'est la taxe qui les gêne pour le compte. C'est de dire simplement, monsieur, quand vous allez sur Internet, vous êtes propriétaire de vos données. Ce que vous faites, les recherches que vous organisez, ce que vous cherchez à acheter ou simplement ce à quoi vous intéressez, c'est à vous, c'est vous. Un chef d'entreprise m'a dit une chose très juste. Quand c'est gratuit, ça veut dire que la marchandise, c'est vous. Eh bien, puisque vous êtes la marchandise, puisque vous êtes le propriétaire de vos données, c'est pas un impôt qu'on doit demander aux GAFA. C'est qui vous paye pour les données que vous pensez sérieusement que c'est possible ça. Mais bien sûr, il y a deux choses qui sont en train de se passer, madame, dans le monde. Il faut qu'on regarde ce qui se passe dans le monde. L'Inde vient d'imposer.
Quand vous dites madame, j'ai l'impression d'être Caroline Roux.
Madame Romanoff.
Arlette Chabot.
Arrêtez, elle va se prendre pour une journaliste après.
Il y a deux choses qui se passent dans le monde qu'on devrait regarder. La première chose, en Inde, le Premier ministre indien a dit désormais, toutes les données que vous stockez, et c'est des grandes entreprises pour la plupart américaines et chinoises, elles seront stockées en Inde. Ça vous donne la souveraineté sur ce qui se passe sur vos données. Et la deuxième chose, c'est ce qui se passe en Californie, où le gouverneur de Californie dit exactement ce que je propose, en disant on va obliger ces entreprises en Californie, au pays de M. Trump. On va obliger ces entreprises à rémunérer les gens. En fait, vous auriez le choix. Soit vous voulez que ça soit gratuit, mais à ce moment-là, vous savez qu'on utilise vos données et qu'on se sert de vous, voire qu'on les utilise mal, soit vous êtes rémunéré, soit vous payez pour pouvoir avoir accès. La possibilité, surtout à 450 millions d'Européens, de dire aux GAFA, vous ne fonctionnerez désormais que si vous faites des milliards avec nos données, mais vous allez d'abord payer ces données. Et franchement, je préfère que ce soit les citoyens qui soient payés plutôt qu'une taxe qu'on imposerait.
Jean-Christophe Lagarde, si vous êtes élu, parce que vous êtes numéro 1, donc là vous serez élu normalement.
Ah, si on fait 5%, on fait 5 élus, et ensuite ça monte à peu près à chaque pourcentage.
Donc vous serez élu, vous allez quitter votre rôle à l'Assemblée nationale de président de l'UDI, cette circonscription.
De président de l'UDI, non, mais de président du groupe à l'Assemblée nationale, oui.
Oui, et puis vous allez quitter cette circonscription que vous aimez beaucoup autour de
Ça, c'est sûr, mais je vais continuer à y vivre, et puis je vais continuer à être conseiller municipal de ma ville, donc je continue à me passionner pour la ville dans laquelle
mais
j'ai grandi.
Mais quand on est député européen, il faut aller...
Oui, bien sûr. Et quand on est député français, il faut aller à Paris.
Oui, mais je veux dire...
C'est un peu plus
elle
loin.
Elle a progressé en politique, c'est dingue.
En fait, j'ai interrompu ma phrase.
Je vous surprendrai, c'est pas tellement plus loin que ça. Je mets 1h15, 1h20 maintenant pour aller à l'Assemblée nationale. Et pour aller à Bruxelles, il faut 2 heures de train. Donc c'est pareil.
Vous allez y aller beaucoup à Bruxelles. Vous n'allez pas être un député fantôme.
Et y compris pour aller interpeller des commissaires. Parce qu'on a un gros problème avec la Commission européenne.
Ça ne vous fait pas peur de quitter cette circonscription? Vous êtes élu depuis tellement d'années, où vous connaissez le territoire, vous connaissez
d'abord,
les gens.
D'abord, ça ne me fait pas peur parce que j'ai une équipe localement qui fonctionne parfaitement. J'aurai un remplaçant, un suppléant, mon suppléant actuel, qui me remplacera à l'Assemblée nationale, en qui j'ai toute confiance et que les habitants connaissent bien. Mais, pardon, il y a un sujet. Je vous prends un exemple de récent de l'actualité. Vous avez vu qu'on a interdit au niveau européen à Alstom et à Siemens de fusionner pour construire des trains. On peut débattre à l'Assemblée nationale de tout ce qu'on veut, mais qui a décidé de ça? Une commissaire européenne, une technocrate en réalité, qui, de Bruxelles, a dit non, c'est pas bien. Eh bien, elle a commis une profonde erreur, parce que pendant qu'on a interdit à Alstom et à Siemens de fusionner pour construire 35 trains par an, on laisse en Europe s'installer des trains chinois, ça s'appelait China Railway, qui font 450 trains par an. C'est-à-dire qu'on a regardé les problèmes de concurrence en interne à l'Europe, mais on n'a pas regardé qu'on allait se faire manger de l'autre côté. La première ligne qu'ils sont en train de réaliser, je parle des Chinois, c'est la ligne entre Athènes et Budapest. À l'Assemblée nationale aujourd'hui, je ne peux pas aller chercher cette commissaire européenne pour lui demander de rendre des comptes. Au Parlement européen, on peut le faire.
Vous êtes un vrai pitbull
Non. Est-ce que j'ai l'air d'un pitbull?
Il vient de Drancy.
Il vient du 9-3 ou pas ça.
Vous l'avez pas vu en survêt Lacoste, c'est autre chose.
Europe 1. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI, venu nous parler de sa candidature aux élections européennes avec un titre très très original comme tête de liste, à ce qui s'intitule Les Européens.
Parce que nous sommes les plus européens et qu'on veut que l'Europe... Je pense que si l'Europe...
C'est la fin de la partie, vous parlerez après à la pub, Jean-Christophe Lagarde.
Je sais tes matchs, Anne Roumanoff.
Anne Roumanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Roumanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi avec Mickaël Quiroga, oui. Ben H, Jean-Philippe Bisigny, ouais, notre invité, Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI, qui vient nous parler de sa candidature aux européennes avec la liste Les Européens. Voilà. Ils n'ont pas peur alors à La République En Marche que vous leur preniez un peu des électeurs?
Mais moi je ne suis pas là pour prendre des électeurs à qui que ce soit.
Ah, vous avez dit que vous vouliez faire 100% à un moment donné.
C'est ça qui va sortir de l'émission. Hein.
Il va en manquer quelques-uns.
Forcément. Non, mais pour être plus sérieux,
sérieux,
la question c'est est-ce qu'on arrive à réveiller les citoyens et à sortir le débat européen de ce débat totalement dépassé qui a eu lieu il y a 27 ans entre François Mitterrand et Philippe Séguin, qui était au moment de Maastricht. Si on renforce la construction européenne dans des domaines très limités d'ailleurs, mais stratégiques. Est-ce qu'on perd de la souveraineté? La réponse est non. Parce qu'on perd de la souveraineté quand on reste séparé et qu'on est obligé de dépendre de ce que vont décider des électeurs qui ne sont pas européens. Moi, je n'ai pas envie que le destin, le nôtre, celui de mes enfants, soit décidé par un électeur de Californie, de Floride, du Wyoming ou de l'Utah. Parce qu'on sait très bien aujourd'hui que dans la dépendance dans laquelle nous sommes des États-Unis, dans l'inégalité des relations entre nous, c'est eux qui décident pour nous. Vous avez vu les lois extra-américaines, extraterritoriales, comme on dit? La BNP, quand elle se fait piquer 9 milliards de dollars, c'est sur nos comptes, c'est sur nos agios que ça se produit. Pourquoi? C'est parce
qu'on fait un trou de fou.
Vous êtes allé les voir pour dire que c'est pour ça que vous étiez à découvert.
C'est lui qui a tout payé, c'est pour ça qu'il n'y a plus d'oseille pour aller chez le coiffeur depuis.
c'est le casque. Mais quand la BNP...
Non, même sans casque.
Je ne l'ai pas vu sans casque, j'ai essayé pour
lui,
vous.
Lui, quand il prend le vent, ça le coiffe.
En ce moment, il est servi. Quand la BNP se fait dépouiller de 9 milliards de dollars par un petit juge américain au nom d'une loi américaine que nous n'avons pas votée, que nous n'avons pas choisie, c'est pourquoi? C'est parce qu'on utilise le dollar et nous n'utilisons que le dollar pour échanger à l'étranger. Quand le président de la République signe avec le président chinois 30 milliards d'euros de commandes d'Airbus, c'est en dollars. Or, les Américains vous disent vous avez le droit de faire ci, vous n'avez pas le droit de faire ça. Si vous utilisez le dollar pour une transaction, vous êtes pénalisable par un juge américain. Je ne veux plus de ça. Moi, je veux qu'on se serve de l'Europe pour que, par exemple, l'euro devienne notre monnaie de transaction.
Le poste de ministre des Affaires européennes vient de se libérer avec toutes vos idées. Pourquoi? Hein? Et vous proposerez le poste, vous refuseriez?
Mais je vais vous dire pourquoi. C'est parce que, et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas accepté ou souhaité faire une liste avec Emmanuel Macron, je ne conteste pas qu'il souhaite que l'Europe puisse mieux fonctionner. Je pense que son programme est insuffisant pour le faire. La seule chose, c'est qu'il faut être d'accord sur le projet pour être ministre, parce que vous êtes aux ordres du président de la République, ce qui est parfaitement normal, c'est lui qui est élu par les Français, mais à ce moment-là, il faut être d'accord sur le projet. Sur le projet, en tout cas, sur la vitesse, sur l'intensité du projet, nous ne sommes pas d'accord. Je pense que si on modifie aussi peu l'Europe qu'il le propose, l'Europe disparaîtra à terme, parce que si les gens n'ont pas l'impression qu'elle est utile, ils se diront pourquoi elle nous enquiquine.
J'aurais dû préciser que je voulais une réponse courte, mais c'est pas grave. C'est pas grave.
Ben H a des choses à vous dire, Jean-Christophe Lagarde.
Oui, merci. Merci, Madame Roumanoff, de me donner la parole dans le cadre de votre émission de divertissement. Sachez par ailleurs que j'aime vous regarder de temps à autre dans mon poste de télévision où je vous trouve toujours particulièrement acerbe et truculente.
Mais qu'est-ce qui se passe, Ben H? Vous parlez comme un homme politique.
Écoutez, je vais vous dire, Madame Roumanoff, vous ne faites pas si bien dire, car à l'occasion de mon face-à-face avec Monsieur Lagarde ce midi, dont je salue au passage la pugnacité et son engagement, il s'agit là d'un adversaire politique redoutable, mais pour qui j'ai le plus grand des respects républicains, ma foi. Alors, à cette occasion, vous disais-je, je voudrais vous annoncer ma candidature comme tête de liste de mon parti aux européennes.
Vous avez un parti,
Vous pouvez
Ben
applaudir, parce que moi, tout à l'heure, il m'a applaudi, donc...
Ça, c'est fair
soyons,
play.
Soyons fair play.
Ça, c'est fair play.
Non, mais sérieusement, vous avez un parti, Ben H?
Écoutez, Anne Roumanoff, je parlerai plutôt de rassemblement citoyen, dont le nom n'a pas été été simple à trouver vu qu'on est une union, que nous sommes démocrates et que nous sommes finalement indépendants. Alors du coup, on avait l'UDI, ça tombait sous le sens, mais Jean-Christophe Lagarde venait de déposer le nom. Alors au début, on est parti sur Rassemblement d'Union Indépendante Nationale et Écologie. Mais bon, l'anagramme, ça faisait ruine. On a eu peur d'être confondu avec le PS. Du coup, on a cherché, et on s'est finalement arrêté sur Confédération d'Union Nationale Indépendante. Alors j'en conviens, ça nous fait l'anagramme CUNY, mais les sondages démontrent que c'est très populaire sur l'électorat féminin.
Non mais vous avez un programme, Ménache ?
Écoutez, je vais vous dire. Oh, je viens de comprendre CUNY.
Je suis désolé, j'étais pas le seul à avoir du retard là.
Écoutez, vous me demandez si j'ai un programme, Madame Roumanoff, écoutez, je vais vous dire. Votre question est très intéressante et sachez-le, j'y répondrai sans embâge, ni manigance. Vous le savez, je suis quotidiennement engagé au plus près des Français. Et vous voulez savoir ce que me disent les Français, Madame Roumanoff ? Voulez-vous savoir ce qu'ils me disent ?
Oui.
Ils me disent bonjour. Alors, pour répondre très précisément à la question de mon programme, Anne Roumanoff, sachez que j'y répondrai très clairement. Parce que je crois que les Français veulent de la clarté. Les Français n'en peuvent plus qu'on leur serve toujours les mêmes discours qui conduisent au même résultat. C'est pour cela que je ferai comme tout le monde, mais avec des mots différents. Chez nous, le CUNY, c'est sans langue de bois.
Non mais... Ménage, vous pouvez au moins nous donner une mesure pour l'Europe ?
Écoutez, je vais vous dire, Anne Roumanoff, je ne veux pas être le père des Français, ni même un grand frère. Je me vois plutôt comme une sorte d'oncle. Oui, je serai l'oncle incarné des Français. Oubliez Ben H, votez Uncle Ben.
Non mais justement, les sondages ne sont pas très encourageants pour l'instant.
Écoutez, je vais vous dire, Anne Roumanoff, les sondages ne sont pas très encourageants, au contraire. La campagne vient à peine de débuter, nous sommes déjà seulement, actuellement, à seulement 2% de l'UDI, que Jean-Christophe Lagarde a conduit et qui est avec nous ce midi.
Ça veut dire que vous êtes à 0%?
Tout à fait. Écoutez, je vais vous dire, Anne Roumanoff, la politique, ça demande du temps. Du temps et éventuellement de bons avocats. Mais c'est un autre débat. Nous ne sommes ni à droite, ni à gauche, ni au centre. Mais au centre du centre, sachez qu'il y a un trou. Nous sommes au fond du trou. Vraiment au fond du trou. Et au rythme où on va, les Français finiront bientôt par nous y trouver. Merci de m'avoir écouté et votez CUNY. Nous, on ne propose rien, mais c'est toujours autant que les autres.
On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec notre invité Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI et tête des listes UDI, les Européens aux élections européennes de 2019.
Anne Roumanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Roumanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi avec Mickaël qui regarde Ben H, Jean-Philippe Bizzini et notre invité Jean-Christophe Lagarde qui ne s'est pas remis de cette liste concurrente. Vous en avez peur ?
Bah écoutez, c'est inquiétant parce que comme ils n'ont rien à dire, ça pourrait rencontrer du succès.
C'est ça le problème. Votre situation est quand même compliquée, Jean-Christophe Lagarde, parce que vous n'êtes pas avec Emmanuel Macron, vous n'êtes plus avec François Bayrou, vous n'êtes pas...
C'est normal, ils sont ensemble.
Oui, ouais. Mais vous n'êtes plus avec, avec Laurent Wauquiez. Enfin,
voilà, vous êtes sur Tinder, du coup.
Apparemment, votre femme est sur le départ, ça vous fait quand même une grosse semaine. Hein.
Vous avez une curieuse façon d'aborder la politique entre le CUNY et Tinder, vous.
Je venais de résumer le personnage.
Chez vous, il n'y a pas que les cheveux qui sont dressés, monsieur. Oui, bien sûr que c'est une... Mais attendez. Assumer ses idées, assumer son autonomie, assumer son indépendance...
Ça ne doit pas être confortable tout le temps, c'est ça que je veux dire.
Ça n'est pas confortable tout le temps.
Jean-Christophe Lagarde, Mickaël Quiroga a des choses à vous dire. Il n'a jamais été en contact avec
un candidat.
Il n'a jamais été en contact avec un homme politique, c'est la première fois. Voilà. Parce qu'il y a des absents, en fait, cette semaine, donc je l'ai mis. Voilà. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, je vous le dis.
C'est un dépucelage, soyez tendre.
dans le cas présent, c'est à vous de l'être, monsieur.
Il faut savoir que pour un chroniqueur, c'est toujours délicat d'avoir affaire à un homme politique, parce que bon, on est là, on rigole, hein, puis tout d'un coup on dit une connerie, et 3 ans après, le gars il est élu président de la République ou nommé ministre, on se retrouve avec un contrôle fiscal, vous voyez, donc...
Et toi, il n'y a rien à contrôler.
Ouais, non, puis c'est pas votre genre.
Non.
Je vais faire gaffe quand même. Alors, bien sûr, je vous connais...
Il y a plus de risques que dans 3 ans, on me ressorte la bêtise que vous aurez dite, qui m'aura fait rire à mauvais escient, que
non, non, c'est toujours fiscal. Ici, c'est toujours à bon escient, rassurez-vous. Alors, bien sûr, je vous connais un peu, hein, je sais 2 ou 3 choses sur vous, par exemple, que vous étiez prononcé pour la légalisation légalisation du cannabis. Ça, on n'en a pas parlé, hein, les choses importantes, Anne. Hein. Voilà. Alors, vous avez dit que ça poserait des problèmes de santé, certes, mais des problèmes qui existent déjà malgré la prohibition, mais que les gains en matière de sécurité seraient considérables et que ça éviterait les mafias de la drogue, par exemple. Hein. Et c'est vrai que ça se discute, puisque en France, on est champion de la consommation de cannabis. Hein. Dans l'Hexagone, il y a 70 000 prisonniers pour 67 millions d'habitants. Si on enferme les gens qui fument, on inverse la tendance. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ce que j'ai compris, vous seriez plutôt un progressiste. Vous voyez, là où d'autres sont plutôt pour un vrai retour en arrière, moi non plus, je ne suis pas trop pour un retour en arrière. Hein. Faut vivre avec son temps, il faut avancer, il faut éviter de répéter les erreurs du passé, surtout. Je veux dire, si on répète les erreurs du passé, alors à ce moment-là, il y a Cardonnet, le ministère des Finances à Cahuzac, un passeport diplomatique à Benalla et un singe à Joe Star. Non, à un moment donné, je sais que vous êtes aussi élu en Seine-Saint-Denis, hein, mon département de cœur, j'y ai grandi, à Montreuil, là où vous avez passé, vous, vos premières années.
Les trois premières années.
Voilà, alors je ne sais pas où vous étiez à Montreuil, moi je suis dans la partie compliquée de Montreuil, hein, qui s'appelle Montreuil. Vous êtes un homme politique plutôt centriste. Alors moi, le centriste, hein, l'idée que j'en ai comme ça, un peu naïvement, c'est que c'est quelqu'un qui est ni de droite ni de gauche. Vous voyez, je suis sûr que quand vous étiez petit, que vous jouiez au foot avec vos potes, vous deviez être ni devant, ni derrière, ni attaquant, ni défenseur. Vous
jouez au rugby.
Ouais, ou vous deviez être l'arbitre, alors un truc comme ça. Mais, alors Jean-Christophe Lagarde, on sait que les coups bas en politique, comme dans beaucoup de domaines, hein, sont monnaie courante. Quand on vous en fait un coup bas, comment vous réagissez? Vous êtes plutôt en mode. Ou alors plutôt la rage au cœur en mode.
Tu ne perds rien pour attendre. Je saurais bien te descendre. Je serais content d'avoir.
Alors, j'en ai pris beaucoup et zen, soyons zen.
Zen, soyons zen, c'est votre truc?
Ça passera.
Vous êtes marié depuis un bon moment déjà, on n'en a pas parlé, hein, mais je suis sûr que.
Mais depuis 17 ans et j'en suis très très heureux.
Voilà.
J'en profite, tiens, parce que j'ai rarement l'occasion de lui dire.
D'accord.
Ça, on sent le mec qui a oublié la Saint-Valentin. Ça.
Non, ça, je suis pas assez bête pour ça. Je sais que j'aurais payé beaucoup plus cher que lui quand il invite une femme au resto.
Alors, justement, je voulais savoir, avec le temps qui passe, l'habitude, pour vous, l'amour, c'est toujours.
C'est pas la peine de montrer la deuxième, c'est celle-là.
Ah. C'est con, la deuxième était marrante quand même. Ou alors, plus généreux. Ensemble, un plus. Vous voyez que ça valait le coup quand même, Jean-Christophe Lagarde. Merci de votre patience.
Merci à vous.
Europe 1, Anne Romanoff. L'histoire de la semaine.
Jean-Christophe Lagarde, on a une tradition dans cette émission. Chaque lundi, on démarre une histoire et on la termine le vendredi. Donc aujourd'hui, nous sommes vendredi. À vous de terminer l'histoire avec un mot pioché au hasard dans ce chapeau.
Député.
Donc, on va écouter le début de l'histoire qui a été démarré lundi par Camille Lacour, poursuivi mardi par les Desperate Housemen, mercredi Pascal Nègre, hier Frédéric François, et à vous de la clôturer aujourd'hui, vendredi, en employant le mot député avec une ou deux phrases.
La musique était très forte quand j'ai commencé à bouger mon bassin.
On était un trio, on s'amusait bien.
Quand soudain, le DJ a lancé un slow.
Évidemment, il l'écoutait grâce à iTunes, mais iTunes... C'est aussi le nom de mon chat, c'est pour ça que je suis troublé. J'ai un chat du Bengale qui s'appelle iTunes. Donc pendant qu'ils écoutaient le slow grâce à iTunes, iTunes ronronnait.
Et bien sûr, quand ils écoutaient iTunes, c'était un certain Francesco Baracato qui chantait et qui les berçait et qui les rendait heureux. Et donc c'est très important.
Et pendant qu'ils essayaient d'être heureux, moi j'essayais d'être député et de les réveiller.
Merci Jean-Christophe Lagarde d'être passé nous voir. On rappelle que vous êtes tête de liste UDI avec une liste qui s'appelle Les Européens aux élections européennes de 2019. Et vous êtes en attendant président, vous resterez président de l'UDI et député de Seine-Saint-Denis depuis maintenant 17 ans. Merci à vous d'être passé nous voir.
Merci à vous, madame.
Merci à toutes les personnes qui travaillent sur cette émission. François Desmoulins et Nicolas Charpentier à la réalisation. Lorena Martin, la programmation. Magali Buteau, Caroline Baudry et Pauline Chataignier. Tout de suite, retrouvez Raphaël Duchemin. Et nous, on se retrouve dès lundi à 11h sur Europe 1.